Le dévoilement de Dieu nous neuf. Dieu changeant de masque ailleurs parti le tourbillon. Mercredi soir, le 4 avril 2018. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, je voudrais tirer un court message de quelques paragraphes du sermon de Fr. Branham. Dieu dévoile, et examiner comment, de temps à autre, Dieu change de masque à travers ses visites chez l'homme, et surtout comment Dieu, à plusieurs occasions, a choisi d'utiliser un tourbillon comme vase de son choix, pour parler à certains de ses prophètes. Ainsi, commençons par lire le paragraphe 35 de Dieu dévoile dimanche 14 juin 64 et mon frère Branham dit, et alors, nous voyons, même à une époque aussi reculée que celle de Job. Ce dernier savait qu'il existait un Dieu. Il le savait. Et il n'y a pas un être humain, dans son bon sens, qui n'ait mis sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Et, donc, Job voulait lui parler. Et je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Dieu était voilé quand il a parlé à Job. Il était voilé dans un tourbillon. Il est redescendu dans un tourbillon. Croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon pour se dévoiler? Nous trouvons cette histoire, qu'il mentionne, dans Job 38. Hein, l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, remarquez que Dieu a parlé à Job dans un tourbillon, et le livre de Job est le plus vieux livre de la Bible. Et il a peut-être vécu quelques générations avant Abraham puisque sa longévité le situe dans cette ère-là. Je voudrais faire un travail de fond avant d'aller plus loin. Le pardon l'un 28 octobre 63 34 Nimrod avait construit une tour, et Nabuchadnetsar une ville, et ainsi de suite. Il perpétue cela à travers des savants et tout. Mais il n'en reste pas moins que c'est elle sans que Dieu avait décidé qu'un substitut innocent prenne la place de l'homme coupable pour son pardon, et la même chose demeure ce soir. Il n'a jamais changé cela. Job a vécu par cela. Job, le plus vieux livre de la Bible. Et même si cet homme en avait vu de toutes les couleurs, il restait toutefois ferme, parce qu'il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Jéhovah. Il savait que c'était en ordre. Abraham de même, ainsi que plusieurs d'entre eux. Israël rencontra seulement. Il n'y avait qu'un seul lieu où Israël pouvait avoir la communion. C'était sous le sang répandu. Les hommes de partout devaient adorer à Jérusalem. Avant qu'il y ait un sacrifice, il n'y avait pas d'adoration, et le sacrifice était le sang. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier Je, 30 juin 60-66 Job, le livre le plus ancien de la Bible. Même avant que la Genèse n'ait jamais été écrite, Job a vécu sur la terre. Et rappelez-vous que Job, tous ses ennuis, toutes ses épreuves, et même ses amis l'ont accusé, ses amis ont été contre lui, cependant, Job a gardé la promesse de Dieu. Il a gardé la communion en tant d'épreuves, à tel point qu'il a crié, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Pendant qu'il souffrait, sa femme même a dit, « Job, pourquoi n'es-tu maudis-tu pas Dieu et n'en meurs-tu pas ?» Job était sous le sang. Il a offert l'Holocauste, il savait qu'il était juste. Car c'est ce que Dieu exigeait, il était venu sous le sang et avait une communion divine avec Dieu. Même dans les dernières heures de sa grande tentation, il a crié, « Même s'il me tue, j'aurai cependant confiance en lui. » Amen. Et c'est par égard pour lui seul 28 juillet 52 19 ça. C'est prier les, un pour les autres, l'importance de la prière. Donc, ses conseillers qui étaient venus, qui s'étaient assis devant Job, ce dernier était Esther, le livre le plus ancien de la Bible. Probablement que c'était Job a vécu du temps de Nimrod, là dans le passé. À une époque située entre Seth et Abraham. Et s'est-elle? Et il a été écrit, le livre de Job, avant Genèse. Et Job était un sacrificateur et un prince. Il aimait le Seigneur. Dieu l'avait béni. Il avait fait de lui un grand homme. Et puis, Satan est revenu là. Eh bien, voici ce que j'aimerais que vous remarquiez, Satan est revenu parmi les fils de Dieu. Il s'est assis parmi eux. Et il s'est remis à parler à Job. Ou plutôt à parler. Dieu s'est remis à parler de la terre. Il a dit, Satan. Ça il a dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Un homme intègre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. J'ai pu obtenir plus d'informations auprès d'un site web appelé apologetique.org qui traîne des questions bibliques concernant ces matières historiques. Et voici ce que j'ai trouvé. Le livre de Job, ni aucun autre livre de la Bible, n'indique directement l'époque où Job, le serviteur de Dieu, vécut sur terre. De plus, il n'y a pas de généalogie biblique contenant des informations chronologiques, telles que ce qu'on trouve dans Genèse 5 et 11, pour nous aider à estimer le siècle dans lequel Job vécut. Néanmoins, de nombreux indices dans le livre de Job semblent indiquer que Job vécut quelque part après le déluge, et bien avant l'époque de Moïse. Premièrement, le statut post-diluvien de Job semble évident à cause d'une question qu'Eliphaz pose lors de son discours final, alors qu'il accusait Job de malice, et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ces ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Job 22:15-16. Comme Owen Jackson fait remarquer, c'est une référence au déluge au jour de Noé. Presque tous les érudits le concèdent. 1983. Page 58. Deuxièmement, que Job fut un patriarche qui vécut avant l'époque de Moïse, et probablement plus près de l'époque d'Abraham, semble évident à cause des faits suivants, comme Job est né avant Jacob dont le nom fut changé en Israël, cela ferait de Job un gentil au même titre qu'Abraham. Les Israélites étaient les enfants d'Israël et les générations qui venaient après lui. Comme les autres vieux patriarches, Genèse 8:20, 12, 7-8, 31, 54. Job, en tant que chef de famille, offrait des sacrifices à Dieu, Job 1, 5, 42, 8. Dans le livre de Job, il n'est pas fait mention du sacerdoce lévitique, du tabernacle, du temple, de la loi de Moïse, etc. J'aimerais ajouter que Dieu a dit à Israël, pendant l'Exode, d'offrir sept taureaux et sept béliers, comme le fit le prophète Balaam. Ainsi, cela devait être une pratique établie bien avant la rédaction des livres de Moïse. Nombre 23:29 Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel. Et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Nombre 29:1 Le septième mois. Le premier jour du mois. Vous aurez une sainte convocation, vous n'y ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous aux sons des trompettes. Deux vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut. Nombre 29:32 Le septième jour, vous offrirez sept taureaux. 33 Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Et ensuite, nous voyons à l'époque de David ces sept taureaux et sept béliers être établis dans l'adoration lévitique. 1 Chronique 15:26 Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. Contrairement à la loi israélite, où l'héritage familial n'était transmis aux filles qu'en cas d'absence de fils. Nombre 27, 1-11, 36, 1-13. Job donna à ses filles une part d'héritage parmi leurs frères. Job 42, 15. Les richesses matérielles de Job ne se mesuraient pas en argent, mais par la quantité de bétail qu'il possédait. Job 1, 3. 42, 12. Ce qui est terre plus caractéristique de l'époque des patriarches. Finalement, que Job ait vécu longtemps avant l'époque de Moïse, semble évident par le fait que sa longévité est beaucoup plus comparable à la longue vie des patriarches, qui vécurent environ de 2200 avenues, JC. Le livre de Job révèle que Job vécut assez longtemps pour se marier, devenir l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. 1, 3. Et puis, pour voir ses 10 premiers fils atteindre l'âge de la raison, 1, 5. Et probablement des âges plus avancés, confère 1h13, 18. Puis, après avoir subi de grandes pertes, en perdant tous ses enfants ainsi que sa richesse matérielle, Dieu bénit Job en lui restituant ses 10 enfants, et toutes les autres choses qu'il avait perdues lui furent restituées au double. Job 42, 10-13. Puis le livre de Job finit par, Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job 42, 10-17. Par conséquent, Job vécut bien 200 ans ou peut-être au-delà. La version des 70 de la Bible déclare que Job mourut environ de 240 ans, ce qui est beaucoup plus semblable aux ancêtres d'Abraham. Exemple, Serug, l'arrière-grand-père d'Abraham, vécut 230 ans, comme nous le voyons dans Genèse 11, 22-23, le père d'Abraham Terak vécut 205 ans, le grand-père d'Abraham Serug vécut 230 ans, l'arrière-grand-père d'Abraham Reu vécut 239 ans, l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham Peleg vécut 239 ans, l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'Abraham Eber vécut 464 ans, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Abraham Skelak vécut 433 ans, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Abraham Arpakshad qui est né 2 ans après le déluge vécut 438 ans. L'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Abraham Sem qui est un fils de Noé vécut 600 ans. Je me sens conduit, un de ces jours, à revenir vous montrer à quoi ressemblait cette époque et montrer comment Dieu a suscité Sem comme une lumière pour guider et rappeler aux hommes le jugement du déluge qui s'était exercé. Et comment le petit-fils de son frère Cham, Nimrod, fut suscité pour entraîner les gens dans le péché et dans des religions mystères. Et vous verrez comment toute la fausse adoration romaine peut être reliée à ce que fit Nimrod. Maintenant, en revenant à ce que frère Branham nous disait concernant le fait que Dieu parlait à Job dans un tourbillon, nous trouvons cette histoire, à laquelle frère Branham fait allusion. Dans le livre de Job 38.1, l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « De qui est-ce celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Trois s'interrin comme un vaillant homme ? Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Quatre eu accent grave étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Cinq qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Six sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, c'est alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Huit qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel. Neuf quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes. Dix quand je lui imposais ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes. Onze quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. 12 Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? 13 Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués. 14 Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. 15 Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. 16 As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es as-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? 17 Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? 18 As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. 19 Où est-il le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? 20 Peux-tu les saisir à leurs limites? Et connaître les sentiers de leur habitation? 21 Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours restèrent grand. 22 Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? 23 Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? 24 Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? 25 Qui a ouvert un passage à la pluie, et tracer la route de l'éclair et du tonnerre. 26 Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. 27 Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. 28 La pluie a-t-elle un père, qui fait naître les gouttes de la rosée? 29 Du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel? 30 Pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. 31 Où tu les liens des Pléiades, où détaches-tu les cordages de l'Orion? 32 Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? 33 Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? 34 Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, pour appeler à toi des torrents d'eau? 35 Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Se disent-ils, nous voici? 36 Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? 37 Qui peut avec sagesse compter les nuages, et verser les outres des cieux? 38 Pour que la poussière se mette à ruisseler, et que les mottes de terre se collent ensemble? 39 Chasses-tu la proie pour la lionne, et apaises-tu la faim des lionceaux? 40 Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? 41 Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Job 40. Ciel, apostrophe éternel, répondit Job du milieu du tourbillon et dit, cet saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. 8 Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? 9 As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? 10 Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. 11 Répand les flots de ta colère, et la regard abaisse les hautains. 12 La regard humilie les hautains, et crasse sur place les méchants. 13 Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. 14 Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. 15 Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. 16 Le voici. Sa force estère dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. 17 Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. 18 Ses osiers sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. 19 Il estère la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. 20 Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. 21 Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. 22 Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. 23 Que le fleuve vienne à déborder. Il n'est mis s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule. Il reste au calme. 24 Esther s'efforce ouverte, qu'on pourra le saisir. Esther au moyen de filet, qu'on lui percera le nez. Nous voyons encore que le Seigneur a utilisé un tourbillon pour emmener Élie au ciel. De Roi 2.1 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. De Roi 2.11 Comme il continuait à marcher en parlant. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Psaume 77.18 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. De Roi 2.1 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. De Roi 2.11 Comme il continuait à marcher en parlant. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. En fin de compte, il Esther parlait 22 fois en tout dans les Écritures du Seigneur et des tourbillons. Bien de fois le tourbillon du Seigneur comme étant une chose destructive que Dieu envoie sur l'homme en jugement. C'est-à-dire ce que frère Branham nous suggère être arrivé avant le grand tremblement de terre d'Alaska qui s'est produit le vendredi saint du 28 mars 1964. Maintenant, continuons dans le sermon de frère Branham Dieu de voile et nous lirons le paragraphe 36. Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre, qui étaient avec nous l'autre jour, quand il est revenu dans un tourbillon. Il nous l'avait dit la veille, frère Bankswood et les autres, quand il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Vous n'allez pas tarder à voir cela. Et j'ai ramassé la pierre, au sommet de la montagne, je l'ai lancée en l'air, et là, naturellement, en descendant, c'est-à-dire ce qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain, et il l'a rompu. Ensuite il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau, il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat. Il a coupé un morceau de bois, il l'a jeté sur l'eau. C'est-à-dire quelque chose devant servir de symbole. Et j'avais ramassé cette pierre et je l'avais lancée en l'air, en descendant. C'est-à-dire ce qui a déclenché le tourbillon. L'histoire de ma vie dîme 19 avril 59 p 66 J'ai repris mes petits sauts. J'ai encore crié deux ou trois fois. Et je me suis mis en route pour remonter l'allée. Je m'étais reposé. Je m'étais à peine éloigné de quelques mètres de là. Dessous les branches de ce gros arbre. Et, oh, là là, le bruit d'un tourbillon s'est-à-dire fait entendre. Je me suis retourné pour regarder, et à peu près à mi-hauteur de cet arbre, il y avait un autre tourbillon. Dans cet arbre, il tournoyait, et tournoyait, en agitant les feuilles. Eh bien, je n'y ai rien trouvé d'étrange, parce qu'à cette période-là de l'année, en automne, eh bien, des tourbillons comme cela surviennent. De petits. Nous appelons ces des tourbillons. Et là ils soulèvent la poussière. Vous en avez vu de pareils dans le désert. C'est-à-dire la même chose. Alors, j'observais. Mais cela ne m'y partait pas. D'habitude, c'est-à-dire comme un coup de vent qui dure un instant, puis s'en va. Mais ça faisait déjà 2 minutes ou plus que cela se passait. L'écriture sur la muraille d'Im de septembre 56-57. Je me tenais à côté d'un vieil arbre là, quand je fus sauvé, au début. Je n'y savais comment parler au Seigneur, mais je voulais me mettre en ordre. Je n'y lui avais jamais parlé. Savez-vous donc comment j'ai fait ma première prière? J'allais écrire cela sur un bout de papier. Comme j'étais un homme de bois, j'habitais toujours dans le bois, pratiquement. Et j'ai constaté que là, je le voyais dans le bois. Je pouvais l'entendre. Je pouvais entendre les empreintes de ses pas, on dirait, alors qu'il passait la nuit dans le tourbillon. Oh! Il chevauche le tourbillon. Alléluia! Son onde s'estère dans un tourbillon. Je pouvais le voir alors qu'il tapait les mains avec des feuilles comme cela. Tout par une voix. Disant, Adam, où es-tu? Oh! Couché là sous une couverture, la tête ressortie, regardant les étoiles. Je savais qu'il restait dans le bois. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération-là. 19 juillet 54 S 23 puis, il n'y avait plus d'emblème. Il n'y restait rien que le peuple pouvait voir. Ou plutôt regarder. Pour croire que Dieu guérissait toujours. Et peu après, un tourbillon descendait du ciel sur la piscine de Bethesda, et Dieu pourvoya une voie de guérison pour le peuple. Et chaque Israélite qui croyait en Dieu, qui croyait qu'il était un guérisseur, pouvait entrer dans cette piscine, lorsque l'eau était agitée, et être guéri de n'importe quelle maladie dont il souffrait. Est-ce vrai? Dès qu'un emblème était retiré, Dieu élevait un autre. Dès qu'une voix arriva à la fin, Dieu frayait une autre. Il y avait. Les œuvres sont l'expression de la foi. 26 novembre 65-59 juste à côté d'un grand canyon, 8 ou 10 fois plus élevé que ce bâtiment. Juste un canyon tubulaire. Il y eut comme un feu qui descendit du ciel, comme un tourbillon, juste à quelques pieds au-dessus de l'endroit où je me tenais. Il arracha les cailloux de la montagne, et passa là et coupa les cimes des prosopis dans un rayon d'une centaine de mètres. Tout le monde courait, cherchant à se cacher sous les camions, et ailleurs. Il remonta et gronda comme un grand tonnerre. Il remonta dans le ciel, puis redescendit. Il fit cela 3 fois. Lorsque tout fut terminé, les gens se sont avancés et ont demandé, « Qu'est-ce que cela signifie ?» 60 Je leur répondis, « J'aimerais vous le dire. » C'était un signe du jugement. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va secouer la côte ouest. Et ce tsunami sera pas fini. La Californie Los Angeles sera engloutie. Elle va sombrer. Elle va s'enfoncer dans l'océan. Et 2 jours après cela, le tremblement de terre alaskien secoua l'Alaska. Et rappelez-vous, il a dit que cela ne s'arrêta pas à l'Alaska. Cette faille a été affaiblie et un de ces jours, elle s'affaissera et la Californie passera par le jugement à cause de la méchanceté qu'elle a exportée par les sodomites qui gèrent le gouvernement et les industries là-bas. Oui. Non seulement les membres du gouvernement sont des sodomites, mais regardez la Silicon Valley. Jobs était un sodomite, et il est mort en portant des vêtements de femme. Et il nommait Tim Cook, un autre sodomite à la tête de sa société. Et regardez tous ces investisseurs là-bas qui sont des sodomites foualiés, et fiers de l'être. Oh! La Californie est condamnée. Aujourd'hui cette écriture est accomplie, VEN 19 février 65-147, observez un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre nation. Ils ont leur propre monnaie, ils sont membres des Nations Unies, ils ont leur propre armée, ils ont tout. Ils sont dans leur patrie au sujet de laquelle Jésus a dit, apprenez une parabole tirée du figuier. Ils y sont. Bien de retour dans leur nation. Aujourd'hui cette écriture est accomplie, les Juifs dans leur patrie. 148 Aujourd'hui cette écriture Esther accomplit, l'âge de l'église de Laodicée. 149 Aujourd'hui cette écriture, Matthieu 24. Esther accomplit, le monde Esther dans une corruption, la chose entière, nation contre nation, tremblement de terre en divers endroits, grand tourbillon descendant secouant les nations et ainsi de suite, grand désastre partout. Aujourd'hui cette écriture Esther accomplit. Les tourbillons du jugement, 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est Esther des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'y sommes point de la nuit ni des ténèbres. Si n'y dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 9 Car Dieu Néhémie nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Ézéchiel 13.10-14 on nous dit, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant, paix, quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille fragile, les murs de séparation entre Israël et le nouvel État palestinien, et eux, ils la couvrent de plâtre. Le fragile mur de séparation, censé apporter la paix, Esther la nouvelle frontière palestino-israélienne, sur lequel l'OLP et les autres groupes extrémistes et terroristes lancent leurs missiles journellement. À quoi sert une clôture, un mur ou un accord binon censé apporter la paix? 11 Dit à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Qu'est-ce ce qui va s'écrouler? L'accord entre Israël et les arabo-palestiniens? Car nous avons déjà lu dans Joël 3 où Dieu a dit, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, ainsi, Dieu lui-même a promis de commencer la destruction par des ouragans de ceux qui vont poursuivre la division d'Israël et le faux espoir de paix qui viendrait par un accord de façade. Remarquez encore, le verset 11 nous dit, 11 dit à ceux qui la couvrent de plâtre, d'absurdité, qu'elle s'écroulera, une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête d'ouragan et de tornade éclatera. 12 Et voici, la muraille s'écroule. Néhémie vous dira-t-on pas, ou Esther le plâtre dont vous l'avez couverte? 13 Esther pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête d'ouragan et de tornade. Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente, et des pierres du grêle tomberont avec fureur pour détruire. Les inondations sont les conséquences des ouragans et des tornades. 14 J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 15 J'apostrophe assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille. Et son Esther fait de ceux qui la replâtraient, 16 des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix. Dit le Seigneur, l'Éternel. Abdias 1.15 Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat. Le 1er septembre 1993, le président Clinton annonce qu'il rencontrera Arafat et Rabin le 13 septembre à Washington DC, afin d'entamer les accords d'Oslo. Après environ une semaine d'errance dans l'océan Atlantique, l'ouragan Emily frappe la Caroline du Nord le même jour. Le 2 mars 1997, Arafat rencontre le président Clinton à Washington DC. Le même jour, une terrible tornade souffle et inflige des dégâts considérables sur l'Arkansas et produit des inondations dans le Kentucky et dans l'Ohio. Le 21 janvier 1998, le président Clinton se prépare à accueillir Arafat à la Maison Blanche. À cette date précise, le scandale sexuel du président éclate. Le 27 septembre 1998, Arafat rencontre le président à Washington. L'ouragan George frappe l'Alabama et s'arrête. L'ouragan s'arrête jusqu'à ce qu'Arafat s'en aille puis se dissipe. Le 17 octobre 1998, Arafat vient à la rencontre de White Plantation. D'incroyables pluies tombent sur le Texas causant des inondations records. La FEMA déclare des parties du Texas zone sinistrée. Le 23 novembre 1998, Arafat vient aux États-Unis d'Amérique. Il rencontre le président Clinton qui lève des fonds pour l'État palestinien. Ce même jour, le marché boursier chute de 216 points. Le 12 décembre 1998, ce jour-là, la Chambre des représentants vote afin de mettre en accusation le président Clinton. Au moment de la mise en accusation, le président se rencontre avec Arafat à Gaza pour discuter du processus de paix. Le 23 mars 1999, Arafat se rencontre avec Clinton à Washington DC. Le jour suivant, Clinton donne l'ordre d'attaquer la Serbie. Le 3 septembre 1999, la secrétaire d'État, Albright, se rencontre avec Arafat en Israël. L'ouragan Dennis atteint la côte le même jour après avoir changé de route pendant des semaines sur l'océan Atlantique. Le 22 septembre 1999, Arafat se rencontre avec Clinton à Washington DC. Le jour avant et après la rencontre, le marché chute de plus de 200 points les deux jours. C'était la première fois de l'histoire que le marché a perdu plus de 200 points en deux jours dans la même semaine. Le marché perdit 524 points cette semaine-là. Le 16 juin 2000, Arafat se rencontre avec le président Clinton. Le marché chute de 265 points ce jour-là. Du 12 au 26 juillet 2000, Arafat aux réunions de Camp David. De puissantes sécheresses partout dans le pays. Des feux de forêt à l'Esther éclatent en incendie incontrôlé. Dès la fin d'août, le feu a brûlé 7 millions d'acres. Le 9 novembre 2000, Arafat se rencontre avec le président Clinton à la Maison Blanche afin d'essayer de sauver le processus de paix. C'était juste deux jours après l'élection présidentielle. La nation entrait à peine dans une crise électorale, la pire en plus de 100 ans. Le 11 novembre 2001, Arafat parle à l'Assemblée Générale de l'ONU et condamne Israël. Plus tard, il se rencontrera avec le secrétaire d'État, Colin Powell. Ce jour-là, Saddam menace les États-Unis de ses armes nucléaires. 24 heures après la réunion avec Powell, un avion s'écrase sur la ville de New York tuant 265 personnes. L'accident d'avion se produisit à 15 miles d'où parlait Arafat. Le 1er mai 2002, sous la pression des États-Unis, Israël renonce au siège du quartier général d'Arafat. De massives tornades de force 8 soufflent dans l'Esther des États-Unis pas très loin de la Maison Blanche. Le 23 août 2005, Israël a retiré tout le monde de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, en accord avec le plan américain en faveur de l'État palestinien. Le même jour, selon Wikipédia, l'ouragan Katrina a commencé à se former au large des Bahamas. Les gros titres, du 15 au 23 août 2005, désengagement de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dans un effort visant à désenclencher les menaces sécuritaires planant sur les Israéliens vivant à Gaza et dans une tentative visant à remettre sur les rails les pourparlers de paix. Israël a unilatéralement retiré tous ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie. Le 12 septembre 2005, le dernier soldat des forces de défense d'Israël quitte la bande de Gaza. En conséquence, selon Wikipédia, le même jour du retrait unilatéral d'Israël de tous ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie, afin d'entamer la division d'Israël, commence alors l'ouragan Katrina comme nous le verrons ci-dessous. C'était le désastre naturel le plus coûteux, aussi bien que l'un des 5 ouragans le plus mortel de l'histoire des États-Unis. Parmi les ouragans enregistrés de l'Atlantique, il était le 6e plus fort de tous les ouragans. Au moins 1836 personnes sont mortes lors de l'ouragan lui-même et lors des inondations subséquentes, faisant de cet ouragan le plus mortel des États-Unis depuis l'ouragan Cobb de 1928. Le total des dégâts matériels était estimé à 81 milliards de dollars de 2005. Presque le triple des dégâts causés par l'ouragan Andrew en 1992. L'ouragan Katrina s'est formé au-dessus des Bahamas le 23 août 2005 et a traversé le sud de la Floride comme un ouragan modéré, de catégorie 1, et causant des morts et des inondations avant de vite grandir en puissance dans le golfe du Mexique. L'orage s'est affaibli avant de faire son deuxième débarquement à terre comme orage de catégorie 3 le matin du lundi 9 août dans le sud-est de la Louisiane. Il causa de sévères destructions le long de la côte du Golfe, depuis le centre de la Floride jusqu'au Texas, beaucoup à cause de pointes d'orage. Le plus important nombre de morts s'est produit à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui a été inondé alors que le système de digue artificielle a catastrophiquement échoué, dans bien des cas, des heures après que l'orage s'était déplacé à l'intérieur des terres. Finalement, 80% de la ville et de grandes étendues de terre des communes avoisinantes furent inondées, et les eaux des inondations se sont attardées pendant 10 semaines. Cependant, le pire dégât matériel s'est produit dans les régions côtières, telles que les villes le long des rives du Mississippi, qui ont été inondées à 90% en quelques heures seulement, alors que des bateaux et des barges de casinos percutaient des bâtiments, poussaient des voitures et des maisons à l'intérieur des terres, avec des eaux s'étendant à des distances de 6-12 miles, 10-19 km, des rives. Lisons encore à propos de Dieu utilisant des tourbillons, lorsqu'il donna la commission à frère Branham à un très jeune âge. Dans son serment le procédime 19 avril 64-60 et quand j'étais enfant, à l'âge d'environ 7 ou 8 ans, j'amenais de l'eau à une distillerie illicite d'alcool qui appartenait à mon père. Et par un après-midi chaud de septembre, j'étais assis, pleurant, je devais aller pêcher à l'étang avec des jeunes gens, et je n'y pouvais pas aller parce qu'il me fallait transporter cette eau. J'ai entendu comme un tourbillon dans l'arbre, à la mi-chez hauteur. Cependant, partout ailleurs, en septembre, dans l'Indiana, tout était très calme, inerte et calme. Et ce tourbillon dans un buisson, de là retentit une voix. Disant, Néhémie fume jamais, Néhémie boit jamais, Néhémie souille jamais ton corps, c'est-à dire courir avec des femmes. Rien du genre, car tu as un travail à faire lorsque tu seras assez grand. Et ma mère a fait venir un médecin, elle pensait que j'étais très nerveux. 61 Une semaine plus tard, j'ai vu le pont municipal, en transe, comme j'appelais cela. J'ai vu le pont municipal traverser le fleuve Ohio. J'ai vu 16 personnes perdre leur vie là-dessus. 22 ans plus tard, le pont municipal a été jeté au même endroit et 16 personnes ont perdu leur vie là. Dieu de Waldim, 14 juin 64 et 38 le lendemain. Eh bien, il y avait un ministre avec nous. C'était au cours d'une partie de chasse. Il était près de moi. Et il m'a dit, « Le Seigneur donne-t-il des visions ?» Ailleurs, comme ceci, frère Branham, 39, j'ai dit, « Oui, mais d'habitude, je viens ici pour me reposer. » Et juste à ce moment-là, la vision est revenue. 40 et frère Borders, je pense qu'il est dehors en ce moment. Il était avec nous. Frère Bankswood, je pense. Et, oh, il y en avait plusieurs là-bas. 8 ou 10. Et frère Bankswood guettait ça. Juste sur les montagnes, juste de l'autre côté d'eux. Exactement. À environ un demi-mile, 800 mètres, de l'endroit où les 7 anges étaient apparus. Quand j'étais parti dans ce but-là d'ici vers là, et que je suis revenu et j'ai dit, ce qu'il en était 17 sauts, à environ un demi-mile, 800 mètres, de là. 41 et alors, le lendemain, pendant que ceci se déroulait, eh bien, j'ai dit au frère, à ce frère, j'ai dit, votre problème, c'est que vous avez une allergie dans votre œil. Les médecins essaient depuis quelques années de l'enrayer, et ils n'y arrivent pas. Ils disent que vous, qu'elle va détruire votre œil. Et j'ai dit, mais Naomi, vous inquiétez pas, le Seigneur Jésus honore votre foi. Et il a simplement laissé tomber son fusil. Et j'ai dit, votre mère, exactement ce qu'il en était d'elle et quel était son problème. Et il a dit, c'est la vérité. 42 frères Roy Robertson, de l'église, ici, était présent. Je suppose que vous le connaissez tous. Sachant qu'il était un ancien combattant, et sachant ce qui allait se passer, j'ai mis la main sur son épaule. J'ai dit, frère Robertson, sois prudent, fais attention, quelque chose est sur le point d'arriver. 43 Je suis retourné à l'endroit où je devais me tenir, et un tourbillon s'est formé dans l'air. Il est descendu en traversant un canyon. Il était tellement fort qu'il a fracassé le rocher. À une profondeur de 8 ou 10 pouces, 20-25 cm, au sommet de la montagne. Et il a projeté ses pierres à 200 verges, 183 mètres, de là. Il a claqué 3 fois. Comme ça. Et une voix en est sortie. Voyez. 44 et ils étaient tous là. Frère Banks, qui est présent en ce moment, s'est rapproché et a dit, « C'est ce que tu me disais hier ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est ça. » Il a dit, « Mais, qu'a-t-elle dit ?» 45 J'ai dit, « Ça, il n'y a que moi qui dois le savoir, frère Banks, tu vois, parce que c'était, ça alarmerait les gens. » 46 Mais cela a continué son trajet. Ça s'est reproduit juste un peu. S'est déplacé vers le nord. Un peu. Quelques jours plus tard, cela s'est abattu sur l'océan. Et vous avez vu ce qui est arrivé dans la région de Fairbanks. C'était un signe du jugement. Maintenant, nous voyons que Dieu, encore aujourd'hui, vous voyez, les gens seraient pris de panique. Alors, donc, il fallait que ça arrive, voyez-vous. Il faut que ça arrive, c'est tout. Ce qui doit arriver de toute façon. Voyez-vous, cela va arriver de toute façon. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle. Février 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.